Pour ma part, j'ai décidé de vous parler des faits de langue, des faits de discours et des faits de style à partir des définitions de psychomécanique du langage. C'est un travail de fond que je mène pour ma thèse en parallèle avec le travail sur le texte proustien. Gustave Guillaume attire notre attention sur le statut ambigu du fait. Il insiste sur la nécessité d'une méthode linguistique cherchant en profondeur des faits qui ne s'offrent pas à notre compréhension directe. Je cite « La notion de fait appelle révision parce qu'il y a en linguistique, comme du reste partout ailleurs, des faits dirigés, en général bien visibles, et des faits souverains dirigeants d'une visibilité très petite. » Fin de citation. Comme partout ailleurs, dit Guillaume, y compris dans l'étude du style en littérature, domaine qu'il laisse de côté sans toutefois le négliger, et ses leçons marquent une forte conscience des problèmes posés par les possibilités stylistiques et le statut linguistique du style dans sa conception du langage. Quelle discipline serait plus concernée par ce problème de visibilité du fait que la stylistique ? Le fait de style est une microstructure visible, ou plutôt lisible, qui nous signale ce discours particulier qu'est le texte. Et c'est par cette question que j'aborderai l'étude du fait de style à partir des thèses de psychomécanique selon trois axes. Le fait de style dans son rapport structuré-structurant avec le style, puis en me penchant sur les définitions guillaumiennes du fait de langue, avant d'essayer de situer le fait de style par rapport au fait de discours dans le système linguistique. Les travaux récents de Pierre Canet renouvellent, dans une perspective critique, les thèses psychomécaniques sur la nature cachée des formes systématiques de la langue. L'idée est que les formes de langue, dites signifiées de langue, affleurent sous la variété du discours dit signifié des faits. Et Pierre Canet démontre la forme sous-jacente, je le cite, révélée par le phénomène de convergence des faits de style. Cette forme sous-jacente, c'est un système qui structure et ordonne les faits de style apparemment distincts, et à cette forme, on donnera volontiers le nom de style. Je voudrais illustrer ce fait en mentionnant une œuvre qui nous est tout à fait contemporaine, et peut-être méconnue, celle de Claudie Gallet, à travers trois de ses romans, « Seule Venise », publié en 2006, Les Déferlantes en 2008 et L'amour est une île en 2010. Alors ces trois romans présentent une évolution stylistique et certaines constantes qui nous permettent d'envisager la circulation de cette forme sous-jacente de langue, non pas seulement dans un ouvrage, mais dans une œuvre. Je citerai deux faits de style d'ordre syntaxique et un fait que je considère comme un fait de style mais qui touche à la matière du texte, à sa présentation sur la page. Alors, on constate dans cette écriture des ruptures phrastiques précoces qui isolent les compléments facultatifs. Je cite « L'amour est une île ». Ce sont tous des textes de théâtre qui ont été joués au chien fou, point, une vingtaine en tout, point. Je cite également « Les déferlantes ». Ses pieds ne touchaient pas le sol, point, seuls les pointes. On constate également une récurrence des phrases nominales, je cite les déferlantes, « Théo a emporté la bête derrière la maison au fond du pré, là où il avait enterré tous les autres chats, point, un endroit à couvert sous les grands arbres, point, un lieu de mousse et de fougères. » Et troisième fait, on recense de très courts chapitres d'une quinzaine de lignes, signalés par des blancs typographiques. En croisant ces faits, avec les thématiques qui parcourent ces trois ouvrages, il apparaît que l'écriture transcrit la rupture et l'isolement, rupture syntaxique et isolement des groupes, et cela porté par la parole d'un personnage désincarné. Une microstructure identifiable du discours littéraire ne peut être faite de style donc que si elle s'inscrit dans une plus vaste structure au sein de laquelle elle fait sens. Et la phrase nominale, chez Claudie Gallet, fait sens croisé avec les autres faits, et elle signifie la désincarnation d'un personnage, la désincarnation qui parcourt les œuvres, dans lesquelles le personnage ne peut plus que désigner ce qui l'entoure. On retrouve donc dans cette façon d'aborder le fait de style la thèse de Guillaume, qui est que les faits visibles sont le produit de faits de structure, qui, si invisibles soient-ils, n'en sont pas moins des faits. Ainsi, le fait de style révèle cette première forme qui ne nous est pas visible dans un ensemble donné. Il entre dans un second rapport qui nous permet également de questionner sa lisibilité, c'est son rapport à la langue. Le fait de style se rapporte alors à une autre structure sous-jacente, le système de langue. Pour le lecteur, le fait de style est un scandale. Au sens étymologique du terme, il fait buter notre lecture sans nous livrer immédiatement son sens. Du plus petit mot de la langue, comme Laurent Génie le décrit dans son expérience de l'emploi de la préposition « en », à la plus longue période qui engage un travail de reconstruction syntaxique, le fait de style appelle notre connaissance linguistique. Il appelle donc à lui ce que nous nommons le fait de langue en s'en démarquant apparemment. Et j'aborderai désormais les notions de fait de langue et de fait de discours à partir des leçons qui portent ce titre, les leçons de Gustave Guillaume prononcées en 1945 et 1946. Le fait de langue est défini par Guillaume comme la première position de ce qu'il nomme le procès de langage. Le procès de langage correspond au passage de la pensée au discours, du non-verbal au verbal, de l'indicible au dit. Il se compose de deux ordres de faits, les faits de langue et les faits de discours. Ainsi, Guillaume joint le fait de langue et le fait de discours dans la formule d'un entier qui est le procès de langage. Et il écrit cette formule « fait de langue plus fait de discours égale 1 ». En posant que le fait de langue et le fait de discours sont tous les deux parties d'un entier, Guillaume nous permet déjà de dépasser les oppositions entre langue et discours. Et c'est un des buts de la psychomécanique du langage qui se déclare comme une linguistique de position contre la linguistique saussurienne qui est une linguistique d'opposition. Le procès de langage est un mécanisme de construction dans lequel le fait de langue apporte l'unité minimale du langage, c'est-à-dire le mot. C'est le point de départ de la théorie générale du mot de Gustave Guillaume. Elle implique donc que le fait de langue correspond au mot, que le mot est construit et fixé en langue, Guillaume dit « institué », et qu'il se présente à nous avec une grammaire qui lui est propre, une grammaire de sens, de forme, de genre, de nombre et de cas, dont la totalité aboutit au classement des parties du discours. Laurence Bougaud a montré l'intérêt épistémologique en stylistique de cette théorie générale du mot dans son article sur l'emploi des parties du discours dans l'hermétisme rimbaldien. J'ajouterai que la théorie guillaumienne du mot et du fait de langue engage à nous interroger sur le statut du mot dans nos analyses. En considérant que le mot est l'aboutissement du fait de langue, et que ce système met en place la grammaire des parties du discours, il semble que certains faits de style, que nous pourrions interpréter comme des faits agrammaticaux, contraires aux faits de langue, sont finalement conformes aux faits de langue, mais non conformes à l'usage du discours. Et je prendrai comme exemple l'adjectif. Dans la psychomécanique des parties du discours, l'adjectif est la partie de discours dont l'incidence est dite externe du premier degré, c'est-à-dire que l'adjectif se rapporte nécessairement à une autre partie de discours, en l'occurrence le substantif. Et les grammaires décrivent les rapports au sein de la catégorie adjectivale et entre l'adjectif et le substantif en nous disant effectivement que l'adjectif est dépourvu d'autonomie référentielle et ne peut s'appliquer qu'à des substantifs selon des règles de congruence lexicale. De même, la coordination adjectivale doit reposer sur l'homogénéité lexicale. Je cite la grammaire méthodique du français en substance. On sait que les auteurs s'accommodent de ces restrictions, et notamment Proust et ses célèbres enchaînements adjectivaux. J'en citerai deux parmi la foule qu'on peut recenser dans « À la recherche du temps perdu ». Dans le côté de Guermantes, le visage souriant et rose d'Albertine, et dans le temps retrouvé, une matière distincte, nouvelle, d'une transparence, d'une sonorité spéciale, compacte, fraîchissante et rose. Alors dans ces exemples, les adjectifs ne ressortissent pas tous de la même catégorie lexicale. Ce fait a été nommé par Pierre Canet des séries hétérogènes et par Stéphane Chaudier des séries adjectivales discordantes. Les deux mettent en évidence le caractère non grammatical de ces séries adjectivales. Or, si l'on suit la thèse des parties du discours de Guillaume, la langue n'interdit pas l'association sur l'axe syntagmatique de deux parties de discours identiques, et rien n'interdit dans la langue d'assortir tout adjectif avec tout substantif. C'est l'incidence qui est prévue par la langue, mais le support, lui, relève du fait de discours. Ainsi, les restrictions que nous connaissons par nos grammaires sont-elles uniquement d'ordre sémantico-référentiel et donc inhérentes à l'énonciation? L'écart, dans ces exemples, n'est pas marqué par rapport au fait de langue, mais par rapport au fait de discours qui impose cette cohérence. La différence entre le fait de langue et le fait de discours, c'est, nous dit Guillaume, une différence de position, de moment. Et l'écart, ce que nous nommons l'écart entre les deux, lui le nomme vide, un vide nécessaire qui naît dans la genèse du langage. Alors je ne vais pas analyser plus longuement la notion de vide, qui explique chez Guillaume l'indépendance de la langue et du discours, et je renvoie à la leçon du 4 avril 46, série B. Dans cette leçon, Guillaume nous dit que le fait de discours ignore le système, et l'on voit déjà comment le fait de style se démarque de tout fait de discours, puisque lui, on l'a vu en première partie, n'ignore pas le système et participe de la construction du style. C'est un point essentiel par lequel passe la spécificité de la littérature en tant que discours. Et je voudrais, pour terminer, me concentrer davantage sur le fait de discours. La définition guillaumienne du fait de langue inclut déjà en elle la définition du fait de discours et des possibilités qui sont ouvertes au discours par la langue. Guillaume décrit deux permissions dans le fait de langue. Le fait de langue, c'est ce qui est fixé, institué, plus des permissions dites intranormatives, de simples expressions. Et d'un autre côté, ce qui est institué, plus des permissions extranormatives, dites d'expressivité. La permission intranormative, c'est l'expression la plus proche du système linguistique, celle qui respecte l'ordre et la morphologie des parties du discours. La permission extranormative, c'est l'ouverture du système linguistique à ce que Guillaume nomme les évasions en expressivité et en stylistique. Je cite, le fait de langue, c'est donc l'institué, plus la permission de variation qu'il s'accorde expressivement et stylistiquement à lui-même. Et tout discours s'accommode de ces deux données, l'institué et la permission. En nous suggérant que le style est déjà dans la langue, Guillaume nous rappelle l'invitation de Charles Bailly à rechercher dans la langue les germes du style. Et cela n'est pas étonnant, compte tenu de la connaissance qu'avait déjà Guillaume des écrits du fondateur de la stylistique. C'est notamment à ce dialogue que l'on doit deux notions psychomécaniques du discours, l'expression et l'expressivité, qui transposent les concepts de Charles Bailly d'intellectuel et d'affectif. L'expression, c'est la forme de base du discours, ni emphatique, ni esthétisée. L'expressivité, notion à laquelle j'associerai l'expression de fait d'expressivité, afin de ne pas le confondre avec le fait expressif qui, lui, serait du côté de l'expression, a intéressé et intéresse encore les études stylistiques. Le fait d'expressivité est déjà évoqué par Marc Ouimet dans son article sur les rapports entre stylistique et psychomécanique en 1981, qui écrit que l'expressivité ne fait pas le style, bien que tous deux appartiennent au discours. Et plus récemment, par Étienne Carabessian, pour démontrer nos erreurs interprétatives dans le fait de style. Le fait d'expressivité, effectivement, n'est pas le fait de style. Ce dernier exploite le système à des fins artistes et le premier à des fins emphatiques et pragmatiques. Je cite Guillaume, le 7 mai 48, « L'expressivité est de l'ordre de l'improviser. » Dans le système du style, le style entre donc dans un rapport structuré-structurant avec le style, dans les limites d'un univers particulier, celui de l'œuvre ou du genre. Dans le système linguistique, le fait de style n'est pas incongru. Et chercher à le lier au fait de langue, c'est aussi chercher à le lier au fait de discours. Car le fait de style est un fait de discours particulier, certes, mais dont le fonctionnement vis-à-vis du système de la langue est identique à tout fait de discours. On peut entrevoir les implications stylistiques des définitions guillaumiennes du fait de langue et du fait de discours. Elles sont nombreuses, je n'en ai fait qu'esquisser quelques contours. J'ai évoqué la théorie du vide qui peut nous permettre de repenser la notion d'écart. Je citerai également la notion de temps dans le fait de discours et dans la genèse des langues qui peuvent être utiles dans l'analyse du statut d'un fait de style à travers les genres et les époques, et également les différentes théories de l'effet dans le discours, c'est-à-dire dans la terminologie guillaumienne de la phrase. Voilà qui peut peut-être encore alimenter le dialogue, parfois difficile mais néanmoins fécond, entre la stylistique et la psychomécanique du langage. Je vous remercie de votre attention et je répondrai, si possible, avec plaisir à toutes vos questions.